vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeiro.
Chers auditeurs, bonjour. Cher Alexandre, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui dans cette émission, nous allons aborder la biodiversité génétique. Et sur le plan pratique, je lance le message « Laissons pousser les fleurs ». Mais Alexandre, au sein de la biodiversité, comment se positionne la diversité génétique ?
Eh bien, nous avons vu que la biodiversité se définissait à différentes échelles et je vous propose en effet aujourd'hui de nous focaliser en fin de compte sur la moins visible parce que les écosystèmes, on voit ce que c'est qu'une forêt, qu'un écosystème aquatique comme une mare. Quand on parle de la diversité spécifique, eh bien on voit tout de suite lion, girafe, renard, tout ce qu'on peut imaginer. Par contre, il existe un autre niveau, celui de la diversité ou variation génétique.
Alexandre, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une espèce ?
Voilà, donc on va partir de l'espèce pour arriver jusqu'à la variation génétique. Donc, une espèce, c'est un ensemble de populations. Et une population, c'est un ensemble d'individus qui vivent au même endroit, en même temps, et qui peuvent se reproduire entre eux. Chaque individu possède un patrimoine génétique qui lui est propre. Et comme ces individus forment, eh bien, une population, ça veut dire qu'une population, on peut la définir aussi comme un ensemble, un pool de gènes.
Ce qui va être la diversité génétique, si je comprends bien.
Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est certes la diversité génétique au niveau de chaque individu, mais surtout au niveau de la population entière. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'est-ce qui façonne cette diversité biologique, quelles sont les pressions ou forces évolutives qui vont façonner le pool de gènes. Alors, nous avons quatre pressions évolutives qui sont toutes très importantes. La première, c'est la mutation. La mutation, c'est celle qui va générer à la base la diversité, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits changements qui vont arriver au hasard sur l'ADN, l'ADN étant le support génétique. Une fois que ces mutations sont apparues, s'il n'y avait pas de mutation, tout le monde aurait exactement le même patrimoine génétique. Donc, on a besoin de mutations pour avoir de la diversité. Ensuite, il va y avoir trois autres forces qui vont être importantes. Très souvent, on entend parler de la sélection naturelle.
Oui.
Et voilà, la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait la chose suivante. Si vous avez en gros une mutation qui avantage les individus qui l'apportent, elle va favoriser cette mutation par le biais des individus dans la population. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Imaginons, on a une ancienne mine qui est abandonnée. Donc, on part d'un état zéro où il reste plus que des cailloux, des différents déchets de minerais. Et puis, petit à petit, cette zone va être colonisée par des végétaux. Mais pas par n'importe quel végétaux, par des végétaux, par exemple, qui sont capables de détoxifier, le mercure qui est dans le sol. Et si vous vous promenez plus loin, vous verrez la même fleur. Sauf que si vous regardez au niveau génétique, la fleur qui est très loin de la mine n'aura pas la mutation qui lui permet de vivre en présence de mercure ou d'autres métaux lourds, par exemple.
Ouais, donc si on la plantait à cet endroit-là, elle mourrait.
Elle mourrait, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des adaptations locales. Si vous avez une mutation qui est ce qu'on appelle délétère, qui est mauvaise, eh bien ça va, c'est très simple, la sélection naturelle va éliminer cette mutation. Mais si vous voulez, la plupart des mutations qui apparaissent au niveau du patrimoine génétique n'apportent ni un avantage très important, ni un désavantage très fort. Donc, ça va être une autre force qui va un petit peu les prendre en charge, les faire évoluer. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire tout simplement les phénomènes de hasard. C'est par hasard que cette mutation va augmenter dans la population, et c'est par hasard qu'elle va diminuer. Je vous ai dit 4 forces, nous n'en avons vu que 3, il reste ce qu'on appelle le flux de gènes. C'est-à-dire le flux de gènes, c'est les échanges entre populations. Plus deux populations vont échanger entre elles des gènes, plus ces populations seront similaires. Donc, la diversité génétique dans une population, c'est une garantie pour répondre au changement de l'environnement. L'environnement, il est toujours quelque part changeant. Comment est-ce que les organismes, et là l'unité qui va évoluer, ça va être la population, comment elle va répondre? On va prendre juste un petit exemple. On parle souvent des résistances aux antibiotiques. Si vous voulez, le problème est très simple. Vous avez des bactéries. Et puis, dans ces bactéries, il y en a qui ont une mutation, comme ça, qui apparaît au hasard, qui leur permet de résister à un antibiotique. Rien ne se passe. S'il n'y a pas d'antibiotique, si vous mettez un antibiotique dans cette population, toutes les bactéries qui n'ont pas la mutation résistante vont disparaître. Et donc la nouvelle population que vous avez derrière, c'est une population avec des bactéries résistantes. Voilà l'importance de la diversité génétique.
Donc qui permet de s'adapter.
Qui permet de s'adapter à tous les environnements. Voilà, sans diversité génétique, il n'y a pas d'adaptation.
Et alors, je ne sais pas, mais moi, ça me fait penser à une chose, cette diversité qui est finalement un peu invisible, ça me fait penser à l'harmonie et à la beauté. Comment l'invisible se fait visible pour notre émerveillement.
Ah, très bien. Vous avez de longues méditations et réflexions sur les thèmes que nous proposons. Et je crois d'ailleurs que vous voulez nous parler de fleurs.
Tout à fait. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un ouvrage du livre de Michael Lonsdale, Petite spiritualité des fleurs. Michael Lonsdale est un grand artiste, acteur, écrivain, avec une voix extraordinaire. Il a obtenu un César pour son rôle de frère Luc dans Des hommes et des dieux. Et il participe à la diaconie de la beauté, c'est-à-dire le service de la beauté et des arts sacrés.
Donc je pense qu'il va nous parler de fleurs, n'est-ce pas ?
Exactement. Je le cite. « Les fleurs sont comme des anges, les messagères de Dieu. Regardez-moi, nous disent-elles. Elles nous rappellent à leur façon propre, avec éclat ou humblement, selon leurs caractéristiques biologiques, que Dieu nous aime et nous donne en cadeau cette nature dont nous devons nous occuper. » Oui, je vois la fleur comme une sorte d'ange végétal qui transmet un message de beauté et de transcendance. Un ange qui signale, qui attire aussi bien l'esprit que les sens. Les fleurs peuvent nous aider à prier. Elles nous relient à Dieu. Elles peuvent réjouir, réconforter, peut-être même consoler les âmes sensibles. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour les fleurs, quelles qu'elles soient. Elles agissent ainsi par le pouvoir de leur beauté, par l'émerveillement qu'elles suscitent en nous. Je pense à saint Augustin qui a su allier la sensibilité humaine à la beauté, c'est-à-dire l'émerveillement, et la recherche de la beauté absolue, celle de Dieu. Et donc en fait, pour saint Augustin, et ce que nous dit Michael Lonsdale, c'est la beauté en ce monde est le reflet de la beauté éternelle de Dieu. Je ne peux m'empêcher de voir dans la beauté des fleurs la beauté de celui qui les a créées.
Ah. Très, très, très joli. Ça, c'est un texte qui, en effet, appelle à méditer sur de petites choses qu'on voit presque tous les jours, surtout si on habite un petit peu à la campagne. Je me demande si vous n'allez pas nous inciter à faire pousser les fleurs, justement.
Oui, Alexandre, laissons pousser les fleurs. Laissons-les rendre gloire à Dieu dans toute leur beauté. Vous savez, comme beaucoup de citadins, pendant longtemps, nous avons occupé nos week-ends à tondre la pelouse, à couper l'herbe, à chasser les mauvaises herbes. Nous habitons depuis presque 20 ans sur un terrain de 2 hectares avec 1 hectare de bois, 5000 m² de prairie et 5000 m² pour le jardin d'agrément, autour de la maison et du potager. Et puis nous avons 2 ânes, Paco et Mistral, qui ont besoin de foin. Et nous avons décidé de laisser pousser toute une partie que nous tondions régulièrement jusque-là. pour faire du foin. Nous ne laissons que des petits chemins pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre et admirer nos rosiers anciens.
Et qu'avez-vous observé ?
Eh bien, un miracle, Alexandre, un miracle. L'herbe n'était pas que de l'herbe. La première année, nous avons observé des marguerites par centaines, puis des pâquerettes, des violettes et toute une diversité de fleurs multicolores se sont invitées au milieu des herbes folles. Folles de bonheur de pouvoir enfin pousser librement. Et cette année, nous avons même des orchidées sauvages qui sont apparues.
Voilà, la biodiversité est vraiment près de chez nous, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut juste la laisser, en fin de compte, s'épanouir et prendre un petit peu de temps pour l'observer.
Oui, tout à fait. Et cette beauté invisible, eh ben, elle va nous apparaître visible petit à petit si on a le regard qu'il faut et si on mène les actions qu'il faut pour notre émerveillement.
Très bien. Eh bien, voilà encore une action assez simple à mener pour changer un petit peu notre regard et avancer vers l'écologie intégrale. À très bientôt, Didier. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.
À bientôt et laissons pousser les fleurs.